Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
La discrétion, c'est une vertu extraordinaire. Essayez d'être discret. Il y a un livre qui s'appelle La Bilbaude. La Bilbaude, c'est autre chose qu'une technique. Une façon de marcher en forêt et essayer d'être complètement invisible. Lorsqu'on essaye d'être invisible, et ben on voit tout l'invisible. L'invisible, c'est la totalité de ce qu'on a sous les yeux, qui vient par une attention un peu flottante, quoi. On ne vise pas, on ne cherche pas, on ne chasse pas, on ne pêche pas, on est juste là. Simplement une attention, un regard affûté. Je pense que la poésie, c'est ça aussi, c'est d'essayer d'affûter un peu son regard, ses sens. Et il y a tout qui se révèle, qui se dévoile. C'est pas magique, hein. Ça demande un peu de concentration.
Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Bienvenue à vous dans cette émission qui s'annonce contemplative. Je vous emmène aujourd'hui en effet en balade sur une île. Promenade dans la petite forêt du Nil de Loire où on va passer une heure avec des arbres. C'est un parfum d'été qui nous attend, mais pas un été serein. Depuis le temps qu'on nous parle du réchauffement climatique, ben on l'a vécu pendant ces épouvantables mois de juillet et août 2022 qui auront connu d'accablantes canicules à répétition, sécheresses, pénuries d'eau, feux de forêt et divers incendies, sans parler de la pollution de l'eau, cyanobactéries et divers poisons agricoles qui se terminent en cides. Cet affreux été caniculaire 2022 nous annonce les étés du futur. Toujours plus chaud, toujours moins d'eau douce et potable. Le manque d'eau douce, on va beaucoup en parler dans nos émissions à venir et suite à nos reportages sur l'horreur criminelle des méga-bassines. Mais avant de partir sur cette inquiétante série autour du manque de l'eau douce, on va s'aérer un peu l'esprit et le cœur avec une chouette balade insulaire et sylvestre. Vous êtes maintenant à Rochecorbon, charmant petit bled sur la Loire, une dizaine de kilomètres en amont de la ville de Tours, Indre-et-Loire, région centre. Et à Rochecorbon se trouve une association et école de navigation en Loire qui s'appelle La Rabouilleuse et qui propose plein d'activités autour de la Loire. Et c'est à La Rabouilleuse qu'on rencontre Sam.
Bonjour. Qu'est-ce que tu fais toi ici à La Rabouilleuse, Sam ?
Alors moi je suis animateur, batelier, éducateur grimpe d'arbres.
Et on s'en va en balade avec toi. Tu nous emmènes où ?
On va se rendre sur l'île des Buteaux, qui est l'île qui est juste en face de La Rabouilleuse. Une grande île, très vieille île de Loire, qui est située entre l'île aux Vaches et l'île de la Métairie-Boisselière.
Donc là on arrive à l'embarcadère de La Rabouilleuse. Plusieurs bateaux qui sont amarrés.
Ce sont des futraux.
C'est des bateaux qui ont été conçus à fond plat. Pour naviguer sur la Loire, on peut naviguer sur un tirant d'eau très faible avec ça, hein. Une quinzaine de centimètres suffisent pour faire glisser un bateau là-dessus, non ?
Oui, c'est ça, 15 centimètres, selon le poids à bord, ça dépend, mais ouais. 15-20. Mais il faut quand même quasiment 800 kilos, donc c'est des bateaux qui sont tout en bois, de bonne taille, assez effilés, très bien faits pour pouvoir naviguer à la voile, et des bateaux qui servent pour les formations à la navigation, pour initier les gens du coin, une navigation avec l'usage de la bourde, des rames et de la voile. Donc tout un petit travail d'équipe à bord.
Donc la bourde, hein, c'est cette grande perche qui est utilisée pour manœuvrer le bateau.
On pique le bâton dans le sable, l'extrémité de la bourde est ferrée. Le bâton s'enfonce plus facilement dans l'eau et puis surtout il y a une accroche qui nous permet ensuite ou de redescendre ou de remonter. Mais on va remonter la Loire là, la bourde.
On s'approche du ponton. Donc là, tu tires un classe-cul, donc un futreau.
Lui c'est Bouzouk. Bachi qui est juste à côté.
On enregistre donc cette balade au mois d'août 2022. On est en pleine canicule depuis des semaines. Là sur notre gauche, il y a un bras dans lequel normalement il devrait y avoir de l'eau, de Loire. Et en fait, il y a une mare avec des feuilles mortes. On peut quasiment traverser à pied pour arriver à l'île d'en face. Normalement, là, il devrait y avoir de l'eau.
2017, 2018, 2019 et 2020, c'était des années un peu comme aujourd'hui, très sèches, un tout petit peu moins quand même. Même si 2019, on avait des débits équivalents à ceux de cette année, autour de 50 mètres cubes seconde. Mais là, ce que l'on observe depuis quelques semaines, c'est une sécheresse des sols qui est particulièrement forte, avec une Loire qui a un volume en eau qui est très faible, des bras secondaires qui s'assèchent, des eaux un peu plus stagnantes, des cyanobactéries. Mmh. Il y a matière à s'inquiéter. Après, ils annoncent de la pluie la semaine prochaine, en espérant que ça fasse gonfler un tout petit peu les rivières. Même si, bien souvent, les pluies orageuses ne permettent pas une infiltration de l'eau dans le sol, ce qu'il nous faudrait, c'est plusieurs journées de pluie constantes, permettant de recharger un tout petit peu, même si la recharge des nappes, c'est plutôt à l'automne, à partir d'octobre. On espère que, au moins, ces eaux qui vont arriver vont pouvoir sauver quelques arbres.
Oui, parce que c'est surtout des arbres dont on va parler aujourd'hui, mais en fait, en parlant des arbres, on va parler de tout ce qu'il y a autour.
En parlant des arbres, on va parler de l'eau, de milieu naturel, d'habitat écologique. Avec les arbres, on parle de tout, au final.
Allez, on embarque. Tu te saisis de notre fameuse bourde, et elle mesure bien, quoi, 5 mètres, hein.
Ouais, c'est ça.
D'habitude, quand on fait du futro, quand on fait du classe-cul, on est toujours en petits équipages de, je sais pas, 4 ou 5 personnes. Et là, je me sens particulièrement privilégié. On est que deux sur ce grand bateau qui mesure quoi ?
8-9 mètres. Là, il n'y a pas beaucoup de fond. Habituellement, dans ce petit bras, on amène les bateaux et les gens embarquent sur notre ponton. Et là, depuis quelques jours, nous sommes obligés d'embarquer, d'accoster sur l'île qui est juste en face. Donc maintenant, c'est plus une presqu'île. On y accède à pied. Et à beaucoup d'endroits, maintenant, on peut traverser la Loire à pied, à Tours. Alors ici, c'est pas le cas. Il y a encore un petit peu d'eau dans ce bras principal. Juste en face de la Rabouilleuse, on a deux îles, entre la rive gauche et la rive droite. Cette petite île, celle où on embarque, qui n'a pas de nom, qui est relativement jeune, et l'île beaucoup plus grande où on va se rendre aujourd'hui, l'île des Buteaux, dont on observe les traces même sur la carte de Cassini, donc une île qui est très ancienne, qui s'est formée, déformée avec le temps, avec les crues successives, puis avec les usages qu'on avait du fleuve, qui diffèrent hein, selon les siècles, une formation d'île qui évolue avec le temps. Donc là, c'est une île qui est assez grande, très boisée. On va arriver dans une forêt alluviale, forêt de rivière.
Sam est en train de vous donner ses explications tout en bourdant, tout en manœuvrant le bateau. Rien que bourder, c'est un truc de fou. S'arc-bouter sur la bourde jusqu'à mettre son corps en équilibre au-dessus de l'eau. Se rattraper à la bourde et le bateau avance comme ça. Alors tu mentionnais tout à l'heure traverser à pied, évidemment, c'est formellement déconseillé quand on n'est pas avec quelqu'un qui connaît, parce que ça peut être très dangereux en fait. Hein. Alors, il y a plein de légendes urbaines autour de la Loire, urbaines ou aquatiques. Hein. Il y a des sables mouvants, il y a des monstres, il y a des... la règle numéro un, c'est ne jamais aller dans un milieu naturel sans personnes qui connaissent parfaitement le dit milieu, comme ça on est sûr de ne pas faire de bêtises. Surtout éviter tout ce qui est ouvrage d'art, quoi. Piles de ponts, barrages... Digues, partout il y a des constructions, il y a des remous, et ça a évité comme la peste.
L'accident qu'il y a eu il y a 3 semaines, c'était au pont Wilson. Effectivement, ce sont les endroits où il peut y avoir le plus de risques de se faire emporter par les eaux, les endroits où il peut y avoir beaucoup plus de remous. Au final, c'est valable sur beaucoup de rivières. C'est vrai que la Loire, il y a eu beaucoup de traumatismes avec des noyades, particulièrement dans les années où on a extrait énormément de sable dans la Loire, modifiant toute la dynamique sédimentaire, provoquant une instabilité à certains endroits de ces bancs de sable. Alors aujourd'hui, on en revient un petit peu, il y a un travail qui est fait autour de la baignade, à savoir que depuis très longtemps, les gens, avant qu'il y ait de l'eau au robinet, la Loire c'était un fleuve où on allait se laver. Et puis après, la baignade est venue au moment des vacances, les colonies de vacances, et cette même période, il y avait un usage, une extraction de la matière, des sédiments, du sable. Donc voilà, c'est cette époque-là, hein, l'époque de l'après-guerre. Pas mal de traumatismes avec des noyades. Donc ça reste encore ancré. Je pense qu'il y a quelque chose dans la mémoire collective des Ligériennes et des Ligériens qui nous amène à imaginer cette Loire peut-être avec des dangers ou des risques importants, plus importants peut-être que d'autres rivières. Aujourd'hui, il y a un travail qui est fait de constat d'analyse de quels sont les réels risques qu'il peut y avoir en Loire. Alors on constate que le risque principal en été,
Il est quand même surtout bactériologique avec ces cyanobactéries que l'on trouve dans les bras morts et sur les abords, là où il y a des eaux un peu plus stagnantes et un peu plus riches. Des algues qui sont un peu plus noirâtres, qui peuvent provoquer des démangeaisons, des problèmes digestifs, ce genre de choses.
Oui, j'ai une copine qui a bu la tasse il y a quelques jours, elle a été malade comme un chien pendant 3 jours.
Et nous qui avons les pieds dans l'eau constamment, on doit être un petit peu vigilant par rapport à ça.
Bon, c'est assez épuisant la bourde hein, quand même, non ?
Ah, quand on remonte le courant, oui. Surtout sur des bateaux comme celui-ci, quand même. Il fait son poids et il y a un vent d'est aujourd'hui, donc un vent qui nous pousse avec le courant. Donc il ne facilite pas la tâche.
Excuse-moi, j'allume le moteur.
Allez, moteur. J'ai jeté l'encre, non ? Donc on aborde sur une plage qui monte, ça fait quoi, 3 mètres de plage avant d'arriver tout de suite dans les arbres. Rien que sur le trajet, là, on a vu plein d'oiseaux, tout petits oiseaux aux reflets bleus irisés qui jouaient. J'ai cru qu'ils s'attaquaient en fait, mais non, c'était comme des chatons. C'était des jeunes martins pêcheurs.
Oui, le martin pêcheur, petit oiseau de rivière. Il la quitte jamais, hein. Tout près de la rivière tout le temps. On le voit rarement, même au milieu des îles. Il est toujours sur le rivage. Il aime bien se percher là où il y a des branches qui sont ancrées dans l'eau, où il fait son terrier sur les berges sableuses. Il fait un trou.
Il fait pas de nid, lui.
Il fait un terrier, une trentaine de centimètres de profondeur. Et là, donc, en ce moment, les jeunes sont sortis, effectivement, ils s'entraînent, ils jouent, probablement.
J'ai regardé ça ce matin, ils sont d'une vélocité, puis alors ils arrivent à prendre des virages à angle droit, à traverser ce bras de Loire, là, ils mesurent combien de largeur ? Ça fait quoi, une cinquantaine de mètres, peut-être ?
Peut-être plus, une centaine.
Et ils traversent ça en quelques coups d'aile, avec une vélocité tout à fait incroyable, en filant au ras de l'eau. Puis ils reviennent, enfin, c'est tout à fait incroyable. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi sur le chemin ? C'était une aigrette ?
Alors l'aigrette garzette, le petit hiéron blanc, très vif aussi.
C'est elle qui a des chaussettes orange ?
Elle a le bout des pattes jaune, ouais, jaune-orangé, ouais, tout à fait. Il y a un mimétisme parfait, lorsqu'elle pêche, ses pattes se confondent avec le sable. Et elle va venir frapper le sable ou la vase pour faire bouger un peu le substrat pour récupérer ensuite des petites bêtes, des invertébrés, des poissons.
Comme dit toujours mon père, hein, c'est bien foutu la nature hein, quand même. Hein. Voilà le pourquoi des chaussettes et des pattes oranges, c'est pour se dissimuler dans le sable en fait.
Ah, probablement, oui. L'aigrette est très vive, ouais. Contrairement à son cousin le héron cendré qui lui reste à l'affût. C'est une autre technique, une autre stratégie. Il reste les pattes dans l'eau, il attend que la proie vienne à lui. L'aigrette va chercher, elle est un peu hyperactive, on dirait une danse. Elle est très élégante et parfois donc elle bouge ses ailes, un petit peu comme un parasol tout blanc. Et certains disent que c'est pour limiter la réverbération du soleil, pour qu'elle puisse voir sa proie. Moi j'ai l'impression aussi que c'est peut-être pour effrayer les poissons, pour les ramener à un endroit voulu. Stratégie de chasse de l'aigrette.
Voilà, juste en très peu de temps, on a réussi à voir des bestioles. Je pense avoir aperçu des castors ce matin en Loire, parce que sachez-le, dans la Loire, il y a des castors. On n'en trouve pas qu'au Canada.
C'est pas le même de l'autre côté de l'océan Atlantique, le castor d'Europe. Celui qui est dans Yakari, c'est le castor d'Amérique qui fait des huttes, qui fait des barrages. Les castors d'Amérique peuvent faire de très très grands barrages, qui peuvent barrer une rivière comme la Loire. Hein. C'est vraiment des ouvrages très importants. Ici, le castor d'Europe, il en fait pas, ou très peu, de petits barrages sur de petits affluents, pour avoir une grosse surface en eau, une espèce de piscine. C'est un animal qui est adapté à des milieux tempérés, mais il supporte davantage le froid que le chaud. Pour cette raison, là, cette année, on le voit assez peu le soir. Je pense qu'il sort plus tard dans la nuit. Sur nos balades crépusculaires, lorsqu'on revenait vers 21h30, 22h, on voyait plus de castors les années précédentes, et avec la chaleur arrivant, le castor sort un peu plus tard.
Il évite les hommes aussi, enfin, même s'il a appris à ne plus avoir peur de nous, bon, il reste discret.
Il est discret, oui, et même si on peut le voir même en ville, si vous allez au pont de Fil à Tours, vous restez à l'affût au pont de Fil, il n'est pas nécessaire d'aller sur une île à l'écart, vous pouvez voir du castor. Il est présent aussi dans les milieux urbains, périurbains.
Donc là, on s'apprête à quitter notre plage de sable, hein, qui monte sur 3 mètres, et tout de suite, on arrive dans la forêt, en tout cas à la lisière des arbres. C'est déjà bien sec, hein. Ils sont stressés, nos arbres, là, quand on est presque à la mi-août. Et il y a déjà plein de feuilles mortes au sol, c'est normal, ça?
C'est pas normal, non. Ce sera peut-être la normalité dans les prochaines années. Mais les arbres ont un stress hydrique assez profond. Certains réussissent à survivre à ces chaleurs accablantes. Mais d'autres arbres, qui, notamment ceux qui ont déjà eu des stress dans les années antérieures, ou des blessures, ont plus de mal à supporter cette chaleur. On est sur une île de Loire, il y a de l'eau à quelques mètres de nous. On peut imaginer que les racines de certains arbres réussissent à capter de l'eau, mais au-delà de 35 degrés, de toute façon, les arbres vont fermer toutes leurs stomates. Ils ne vont plus respirer, c'est un peu comme si on faisait... Et on se retenait. Et l'arbre, il fait exactement la même chose. Donc il garde son eau. C'est problématique. À terme, les arbres, ils en souffrent énormément. Ils ont besoin d'avoir ces échanges entre l'air, la terre et eux. Sinon pas ces échanges, ils souffrent et les feuilles tombent. Et on le voit, c'est l'automne en août ici. C'est très beau parce que les arbres sont tout jaunes et c'est très dramatique car ils sont dans une situation très périlleuse pour certains.
On parlait des castors à l'instant, là. C'est quoi, c'est un peuplier noir? On voit la trace du travail des castors puisque sur une quarantaine de centimètres à partir de la base de ce tronc, il n'y a plus d'écorce.
Oui, ça c'est le castor. Il a commencé son chantier il y a quelques années, qu'il a abandonné. Probablement que l'arbre allait tomber à un endroit qui n'était pas celui qu'il souhaitait.
Parce qu'il calcule ça, lui.
Ah ben oui, le castor, il aime les feuilles tendres et sucrées qui sont tout en haut de l'arbre. C'est sa nourriture principale. On dit qu'il les coupe. Enfin, oui, il va les couper, mais il va les coucher surtout pour pouvoir accéder aux feuilles. Mais ce qu'il aime, le castor, c'est être dans l'eau. Donc il a tout intérêt à coucher les arbres le long de la rivière. Celui-ci, il est incliné, mais plutôt vers l'île.
Oui.
Si cet arbre tombe, il tombe sur d'autres arbres. Le castor, il a dû se dire, bon, ça n'a aucun intérêt pour moi.
Il sait calculer ça, c'est incroyable.
Alors ça, c'est une hypothèse aussi, hein. C'est moi qui l'interprète ainsi, mais pour qu'un castor abandonne son arbre, c'est qu'il y a bien une raison. En tout cas, cet arbre est encore vivant, ce qui est assez remarquable.
Oui, parce que normalement, quand il n'y a pas l'écorce...
L'écorce, c'est la peau. Juste sous l'écorce, il y a toutes les cellules vivantes qui transportent la sève élaborée, la sève... Mais là, donc, c'est complètement grignoté, sauf sur une toute petite partie qui est de l'autre côté.
Ah voilà, voilà donc la vie de l'arbre passe encore par là.
Sur une vingtaine de centimètres de largeur, il y a encore quelques cellules vivantes. Et l'arbre a toujours des feuilles vertes.
Et donc tout passe par une couche d'écorce qui fait quoi, 6-7 cm?
Et là on voit bien son bourrelet de recouvrement. L'arbre, il a eu donc cette blessure. On dit qu'il a compartimenté, il a fait comme un espèce de petit bourrelet. Ce qui est assez fascinant chez les arbres, c'est pas comme nous, où lorsqu'on a un virus ou une bactérie, il y a des cellules qui vont attaquer, qui vont lutter contre. L'arbre, il va créer des petites cellules pour se protéger, mais la gale du chêne par exemple, qui forme une petite boule, l'arbre ne cherche pas à tuer l'animal, il recouvre. Il met une distance entre ce qu'il considère comme un intrus et lui, mais sans le tuer. Ça, je trouve ça très beau.
Donc ici, maintenant, on est sur l'île des Buteaux. Donc a priori, on est coupé, j'allais dire, du continent. On est coupé, d'ailleurs, comment on dit quand on est sur une île de Loire pour parler du continent? On dit quoi? L'autre rive?
Ouais, l'autre rive, ouais, c'est ça. Mais ça m'arrive aussi de parler de continent. comme dans tout milieu insulaire, on est coupé, on est à l'écart d'eux. Encore plus sur une île boisée, une île de Loire avec une petite forêt. La forêt, ça signifie à l'écart d'eux. Être en retrait d'eux. D'ailleurs, dans les grandes forêts françaises ou dans les milieux un peu à l'écart des villes, à l'écart de tout, les gens allaient se cacher. Ils allaient se cacher pendant les guerres, ils allaient se cacher au fil des siècles. Ça a toujours été des lieux de repli. Et puis il y a des luttes aussi. Il y a une histoire des luttes qui est très importante, qui est liée à la forêt. Et aujourd'hui encore, on le voit en France. Il y a beaucoup de luttes qui se passent dans des milieux boisés. À Bure, c'est le cas.
Oui, Notre-Dame-des-Landes aussi. Enfin, là, c'est plus du bocage. Mais bon, il y avait des haies, des taillis, des forêts.
D'ailleurs, c'est important de faire la distinction entre les haies bocagères et puis la forêt. La forêt, c'est vraiment une vision physiocrate. On a imaginé ce que peut être la forêt, mais c'est très lié à un usage industriel, proto-industriel. On a planté des forêts pour alimenter des fours, pour le fer, pour le métal. Alors que la haie bocagère, c'est beaucoup plus lié au monde paysan. Et la haie bocagère, c'est ce qui nous permettait d'avoir le bois pour tout, pour se chauffer. Le bois, de toute façon, remplace tous les matériaux qu'on a aujourd'hui, dits modernes. le plastique, le verre, tout ça, avant il y avait du bois. Ce bois-là ne provenait pas tant des forêts, mais plutôt des haies bocagères. Mm-hmm. Parce que si on imagine un paysage rural de l'époque, avant le remembrement, toutes ces haies bocagères, c'est ce qui faisait la force d'un territoire. Ce qui donnait de l'ombrage, ce qui donnait de l'eau, ce qui donnait de la matière, et puis il y avait quelque chose de beaucoup plus résilient. Alors que la forêt aujourd'hui, et surtout la forêt française qui est dans un état de santé assez déplorable, surtout les forêts monotypes, les forêts mixtes de feuillus, c'est un petit peu différent, c'est encore autre chose. Je pense que c'est bien de distinguer forêt, et puis avant c'était plutôt sylva, la sylva, qui ne désignait pas cet espace de domestication, parce que la forêt c'est quelque chose qui est très domestiqué finalement. La sylva c'est le sauvage, c'est le vrai sauvage, au sens qu'on l'imagine dans notre imaginaire. Donc là, on arrive dans un boisement, la forêt alluviale, mais voilà, les mots sont importants, et du coup, aujourd'hui, quand on parle de forêt, c'est important de se dire aussi que ça correspond à une vision du monde, une vision de l'aménagement du territoire, qui aujourd'hui est très critiquable, parce qu'on sait qu'elle n'est pas résiliente, et qu'elle peut nous amener droit dans le mur, quoi. Il faut planter des haies partout.
Est-ce que le fait que ce soit une île fait que le milieu ici est préservé, qu'il y a tout un tas de maladies, de choses du continent qui ne sont pas venues jusqu'ici? Est-ce qu'on peut ici, sur cette île, trouver des espèces, des variétés qu'on ne trouve pas sur la rive d'en face?
Ce sont des espèces que l'on retrouve dans le lit majeur, donc sur la rive d'en face. Certains arbres que l'on trouve plutôt dans le lit sur les abords, donc le peuplier, le saule, le frêne. Mais comme c'est une vieille île, et le sol est formé depuis très longtemps. Donc il y a des arbres qui sont plutôt inféodés à des milieux ligériens, mais qui sont inondés beaucoup plus rarement. Donc on va trouver des ormes, des chênes, des noyers, qui correspondent plus à des forêts alluviales assez matures. Dans l'évolution d'une forêt, il y a des espèces qui vont se développer à certains moments, disparaître à d'autres. Une forêt, c'est en évolution permanente. Certains écologues parlent d'une forêt dite climacique, donc qui arrive à un stade avancé dans l'évolution d'une forêt, ce qui est assez nouveau sur la Loire, hein, parce que les îles de Loire étaient, avant que l'on extrait tout ce sable, avant tous ces aménagements, avant que l'on ait cette Loire d'aujourd'hui, les îles de Loire étaient des milieux toujours jeunes, qui étaient détruits très régulièrement par les crues. Et là, ce que l'on observe dans la tendance évolutive là, de la Loire, ce sont des crues qui restent moins longtemps, donc l'eau va monter mais va descendre assez vite, du fait de l'incision du fleuve, du fait d'avoir des digues, la Loire est très canalisée au final entre ces digues et ces levées. Donc on a une Loire qui va monter, qui va descendre assez rapidement. Donc les forêts de Loire comme celle-ci, au final, ne sont pas détruites, donc elles sont amenées à grandir tout le temps. D'ailleurs, les îles se rejoignent progressivement. On voit que l'île de la Boisselière, qui est un peu plus en amont, rejoint celle de la Métairie. Les îles se retrouvent en quelque sorte, alors qu'à l'époque, il y avait des milliers d'îles qui étaient en formation et qui étaient détruites chaque année et qui se renouvelaient. On n'est pas tout à fait sur la même dynamique paysagère, si on peut appeler ça comme ça. Les îles de Loire sont différentes aujourd'hui.
On s'enfonce un peu dans sous ce couvert. Il y a une chose qui me frappe sur cette île des Buteaux, mais à chaque fois que j'y viens, enfin j'allais dire cette illusion, oui, insulaire de nature où l'homme est évidemment beaucoup intervenu. Hein. Je crois que juste derrière nous, il y a un immense cratère. Il me semble que c'est une bombe que les Alliés ont dû larguer pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon voilà, on est assis dans une clairière au milieu des arbres. Et pourtant, en fait, on est encerclé par le bruit. On est finalement entre deux routes. Hein. Il y a la levée de la Loire derrière toi. Bah, l'autre levée de la Loire derrière moi, il y a l'autoroute qui passe pas loin, il y a aussi des ULM, des hélicoptères, des machins. En fait, c'est tout à fait stupéfiant de se dire qu'à peine une dizaine de bornes d'une grande ville, on peut trouver ce spot, pas de sauvagerie, puisque c'est une nature organisée, mais je suis toujours frappé par le contraste, la forêt, la clairière, l'arbre, et en fait, on est entouré de moteurs.
Ouais, c'est difficile de faire abstraction de tous ces bruits environnants. Après, lorsqu'il y a du vent, on entend le feuillage et ce feuillage nous coupe. Le feuillage coupe, de toute façon, des autres choses. Et même lorsque l'on est dans un arbre, on l'entend davantage. Et ce feuillage, il nous berce, il nous fait du bien. On parle beaucoup des arbres qui dégagent, des phéromones ou des choses qui vont participer à notre bien-être. Le bruit que fait un arbre, et on l'entend lorsqu'il craque quand il y a du vent, un simple vent nous fait nous échapper complètement du monde. Mais difficile d'être complètement à l'écart du monde. Ici, sur une île de Loire, la Loire est un fleuve qui est très convoité depuis que l'homme se sédentarise. Il a suivi les rivières et la Loire n'en est pas exempte. Il est là depuis très longtemps, à Rochecorbon, il y a un oppidum gaulois. Pas plus tard que la semaine dernière, avec mes collègues, on a parcouru la Loire en bateau pour enlever des déchets, des pneus, du plastique, et on a trouvé une poterie au 15e, 16e siècle. On trouve des traces humaines partout. Il y a ces tas de cailloux, les épis, qui datent du 18e, début 19e, pour améliorer la navigation en Loire. On est sur un territoire qui est occupé par l'être humain depuis très très longtemps, et avec un usage assez important au final. Et puis sur ces îles, il y avait du pâturage à l'époque. Aujourd'hui, les arbres se développent, s'épanouissent, mais pendant très longtemps, ce n'est pas le cas. Enfin, il y avait juste une autre gestion, quoi, un autre usage. Mais on pouvait imaginer des moutons autour de nous. On pouvait imaginer aussi entendre, à une époque, les voiles des bateaux qui se gonflent juste derrière nous. Aujourd'hui, ce sont les avions, ouais, les voitures.
On rappelle que jusqu'à l'explosion du chemin de fer au 19e siècle, pendant des siècles, la Loire avait été une autoroute, notamment commerciale, avant que le train ne détrône le commerce et la navigation fluviale partout en France. La Loire était une véritable autoroute. Tout transitait, voyageurs, mais aussi les biens, le vin, le bois, les matériaux, la pierre, enfin tout. Tout le pays était constellé de voies de navigation, voilà. Et puis c'est le chemin de fer qui a détrôné tout ça.
Ouais, elle porte cette histoire, une histoire marchande. Elle porte aussi une histoire assez sombre, hein, histoire négrière, avec le commerce triangulaire. Sur la Loire, on a transporté toutes ces choses qui viennent d'ailleurs, et l'histoire coloniale qui est très importante. Et donc on peut en parler aussi sur la Loire, aussi pas l'oublier, quoi. Mais la globalisation marchande, c'était sur la Loire, les prémices de ce monde qui est devenu un peu fou. Il y en a des marqueurs très forts sur ce fleuve.
Si on descend la Loire, on arrive jusqu'à Nantes, Saint-Nazaire, Nantes, qui était un port négrier, où on trouve aujourd'hui, c'est très sympathique, hein, les biscuits lus et des sucreries. Cette canne à sucre a été produite dans les circonstances dramatiques qu'on sait. On s'inscrit dans cette histoire du capitalisme. Et bien qu'on dise un gros mot à un moment.
Bah oui, c'est ça. La Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe. C'est un peu une image marketing, hein, un dernier fleuve sauvage. Si on la compare à la Dordogne, je ne sais pas si c'est vraiment comparable, mais c'est quand même pas pareil. Sur la Loire, on a 4 centrales nucléaires. La Loire aujourd'hui est perfusée par les barrages, qui doivent assurer un débit minimal, qu'ils ont du mal aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Là, on est à moins de 50 mètres cubes secondes, puis ça va encore diminuer. On a extrait beaucoup de sable aussi. Et le sable, c'est important, hein, faut en parler aussi un peu, hein. Mais si on a une île qui est si forestière, ça peut s'expliquer aussi par une extraction massive du sable, de l'après-guerre jusqu'à la fin des années 70. Du coup, comme les îles sont plus hautes, elles sont aussi davantage boisées, etc. En fait, en regardant le paysage qu'on a autour de nous, en fait, il nous parle aussi de l'extraction du sable. Et on n'extrait plus aujourd'hui dans le limineur. Enfin, on se gêne pas d'aller extraire du sable en Afrique, dans le limineur du Mozambique, pour satisfaire nos propres besoins en construction. Merci le groupe Bouygues, notamment. Bon, il y a cette hypocrisie, hein, de toute façon, qui est là, hein, on va pas se mentir. Hein. Et puis, on en parle pendant nos balades. On a complètement déplacé la pollution et déplacé les lieux d'extraction de tous ces matériaux qui nous servent à faire du béton. Et ça met en colère, une colère tout à fait légitime. Et la Loire nous parle de ça aussi. En fait, on peut parler de plein de choses. Parce qu'il y a à la fois ces atmosphères particulières, cette douceur, et puis des histoires très belles, d'autres très lourdes. On peut parler de mille choses.
On arrive devant ce spectacle. Pourquoi est-ce que les gens vont dans les centres d'art contemporains alors que la nature fait très bien les choses? Non, mais là, on est face à un vieil arbre de toute évidence mort, couché, une magnifique sculpture, très impressionnant, très beau et un peu triste aussi, mais imposant.
C'est un chablis. Les gros arbres qui vont tomber, qui vont entraîner dans leur chute plusieurs autres arbres d'ailleurs. Celui-ci, c'était probablement le cas. Un peu plié, qui est tombé, qui était mort. Un arbre mort, mais qui est extrêmement vivant. Il est rempli de coléoptères, saproxylophages, ceux qui vont manger le bois mort. Il y a beaucoup d'insectes ici, les entomologistes, pour eux c'est le paradis, l'île des Buteaux. Puisque vous avez tout ce bois mort qui tombe, qui font la nourriture de la forêt. Enlever le bois mort, c'est enlever sa nourriture. Si on veut que la forêt se porte bien, il faut laisser les feuilles tomber, il faut laisser les feuilles eux-mêmes, le sol, et toutes ces branches qui vont l'alimenter. C'est de la matière organique qui va être décomposée, qui va permettre à l'arbre de retrouver cette nourriture grâce à tous ces micros, ces organismes, ces microbes, tous ces animaux qui sont dans le sol. Le sol, maintenant, ça y est, il commence à avoir le vent en poupe. On parle beaucoup du sol et de tout l'intérêt d'avoir un sol riche et très vivant. Et pas que en forêt, évidemment aussi dans nos champs. Mais ici, voilà, on est devant un petit paysage assez extraordinaire, car on a devant nous cet arbre qui est mort depuis des années et qui fait que cette forêt est dans un magnifique état de conservation. Et il y en a partout sur l'île.
Donc Chablis, c'est un arbre mort couché ?
Un arbre qui va tomber, qui va former une trouée, qui va éclaircir le milieu aussi. Ça va générer ce que l'on peut appeler du stress chez eux, parce qu'ils vont se ramifier, développer leur feuillage par rapport au soleil, toujours. Ils vont chercher la lumière. Donc les branches vont être inclinées d'une telle façon pour chercher de la lumière. Alors un chablis, il faut imaginer un arbre qui tombe, là ça fait une entrée de lumière très importante. Et alors certains arbres, pas tous, mais certains ont la possibilité de s'adapter assez rapidement, de refaire des branches, développer des rejets, on va pouvoir en voir. Hein. Là, le frêne qui est là, par exemple, lui, il a eu une entrée de lumière importante d'un coup. Donc au début, ça les stresse, puis après, ils s'adaptent, et puis... Donc là, va rechercher toujours cet équilibre. L'arbre est en mouvement, et souvent, on le pense comme un être inerte. Il n'a pas la même temporalité, et puis il a son altérité à lui. C'est un être qui n'est pas du tout comme nous. En l'observant attentivement, en faisant des dessins, en l'observant au fil des années, on voit toute cette évolution et tout ce mouvement qui est absolument fascinant, qui agit avec les autres arbres qu'il y a autour, avec la lumière. Et... Donc là, c'en est un bel exemple, avec cet arbre qui est tombé.
Ça a l'air idiot comme ça, comme question, mais qu'est-ce qu'un arbre ? Alors oui, d'accord, c'est un tronc avec des branches et des feuilles, et puis en dessous, on imagine qu'il y a des racines, mais qu'est-ce qu'un arbre ?
Ah, c'est vachement dur, les définitions, ça enclôt un peu les choses, et ça les limite fortement, surtout qu'il y en a plein, en fait, des définitions. Nous, dans la pensée occidentale, dans cette ultra-rationalité dans laquelle on est, on imagine que voilà, la définition la plus proche de la réalité de tout le monde, celle qui est partagée, c'est le végétal ligneux qui se ramifie, qui fait plus de 7 mètres. Voilà, c'est une définition qu'on trouve partout. Après, il y en a plein d'autres aujourd'hui, c'est ça qui est riche, c'est qu'on peut imaginer une définition qui évolue en fonction des connaissances, aussi de nos approches sensibles des choses. On va trouver 1000 définitions, mais celle-ci, c'est peut-être celle qui est la plus retenue. Végétal ligneux de plus de 7 mètres qui se ramifie.
Donc on est arrivé au sommet d'une espèce de petite butte et là on redescend vers le centre de l'île. La lumière est magnifique. On s'approche de midi mais on est sous le couvert du feuillage et la lumière tombe par trouées. C'est assez féerique en fait. Un mélange d'ombre et de lumière en même temps.
Oui, le frêne a un feuillage particulier qui laisse passer la lumière. Sur les îles de Loire, au début du printemps, il y a beaucoup de plantes à fleurs au sol qui peuvent se développer aussi grâce à cette lumière qui pénètre à travers la ramure, tout le feuillage des frênes. Ils ont un feuillage assez léger. Et là, on est dans une frênaie. Donc, bon, la plupart des arbres, de grands arbres, ce sont les frênes avec de l'aubépine un petit peu partout, buissonnante. De la bardane et de l'ortie que l'on peut imaginer, parce que là c'est tellement sec qu'on ne la voit pas. De l'aristoloche aussi, petite plante, elle va s'étaler sur le sol. Plante très toxique, avec des feuilles assez marrantes. D'ailleurs elle a un nom marrant aussi, aristoloche. Juste à côté de nous, là c'est pas un frêne, un tout petit peu plus en hauteur, avec une écorce très particulière, qui s'effeuille un peu. Et puis des feuilles rugueuses, à la base il y a une dissymétrie, on le voit ici. Feuilles un petit peu rêches, denté, mais ce n'est pas un charme, c'est un très grand orme. Alors les ormes, ce sont des arbres qui ont un peu disparu. Hein.
Mais ils sont pas malades sur le continent.
Eh ben, les ormes, ouais, ils tombent malades en général lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte. On trouve beaucoup d'ormeaux, les petits ormes, et dès qu'ils sont adultes, il y a un scolyte, un petit insecte, qui va venir manger l'écorce de l'arbre et il va transmettre une maladie, la graphiose. Ça c'est depuis des dizaines d'années et les ormes peinent à devenir adultes, ils sont toujours jeunes. C'est tout à leur honneur. Hein.
C'est le syndrome de Peter Pan chez les ormes.
Mais alors ici, sur cette île, il y a de grands ormes. Et celui-là, bah là, il est assez extraordinaire. Il y a plein de rejets. Ça ressemble à des petites branches sur son tronc. L'orme, il en fait beaucoup. Hein. Sur ces rejets, là, il y a des racines. Hein. Ce sont de petits arbres sur cet arbre. Alors peut-être qu'il a la graphiose, lui, mais en tout cas, il se porte bien. Mais c'est vrai qu'il a une écorce qui est un peu jaune à certains endroits. Il a chaud, lui aussi, mais il résiste. Ses feuilles sont encore vertes. Ici, sur cette île, il y a un système racinaire qui est très dense, qui se renouvelle en continu. C'est beaucoup de matière organique qui se décompose en continu dans le sol. On a un sol qui est très vivant ici.
J'aurais naïvement pensé qu'un arbre sur une île, vu qu'une île c'est sur de l'eau, qu'il aurait moins de mal à résister par exemple à la chaleur que sur la terre ferme. On m'avait un jour expliqué qu'il y a autant de racines sous le sol qu'il y a de feuillage en extérieur.
Il y a très peu de règles pour les arbres. C'est ce qui fait la force et leur côté absolument pas conventionnel. Très difficile d'avoir des règles. Chaque arbre est différent. Leur système racinaire va s'adapter en fonction de la nature du sol, des arbres qui sont autour, de la quantité d'eau qu'il peut trouver. Il y a certains arbres dans d'autres régions qu'ici. On peut observer des racines qui vont aller chercher très 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 profond pour aller trouver de l'eau. Mais la plupart du temps, lorsqu'il y a un sol qui est bien formé, ils vont avoir des racines plutôt en surface. Bon, c'est absolument extraordinaire les racines d'un arbre. C'est pas du tout comme les branches ou les feuilles. Il va en créer tout le temps. Il va y avoir une perte importante en continu, chaque semaine, chaque mois, de ces petites radicelles qui vont se décomposer et puis va en refaire. Beaucoup plus au final que cette partie aérienne. Mais les systèmes racinaires, il est, en tout cas sur cette île, il est beaucoup plus en surface. Donc toutes les racines s'entremêlent. Et effectivement, il peut y avoir un système racinaire très important chez certains arbres, qui peut aller très très loin. Certains disent effectivement c'est la même quantité, je ne sais plus exactement quelle est la règle. Pour te dire, ça ne s'applique pas à tous les arbres. Quoi. Tu veux qu'on avance un peu?
Ouais.
L'orme, il est beau? Ah oui, je m'interdis de grimper dedans.
Tu ne grimpes pas dans cet orme?
Non, je ne grimpe pas dans cet orme. Je ne saurais pas trop te dire pourquoi. Il y a certains arbres qui me touchent beaucoup et je préfère les observer d'en bas. Et d'autres qui sont très accueillants et qui donnent envie d'aller voir un peu plus haut. Mais là, cette orme-là, j'ai jamais eu l'idée de grimper dedans. Ou alors elle m'a effleuré et puis très vite, je me suis interdit à cet acte qui n'est pas neutre. Grimper dans un arbre, c'est pas anodin quand même.
Écoute, justement, t'en arrives à un sujet que je voulais aborder avec toi depuis longtemps. Un jour, dans une conférence, une intervention que tu faisais, t'as dit un truc. Voilà, on est nombreux et nombreuses certainement à faire de la câlinothérapie avec les arbres. Quand on va dans la forêt, on va leur faire des bisous, on les embrasse et machin. Et des fois, on se rue dessus, j'allais dire, sans forcément toujours leur demander leur avis. Et je me dis, c'est peut-être ce qui s'est passé entre toi et cet orme. C'est que peut-être que tu as pris le temps de le regarder, de sentir ce que tu interprétais de son énergie. Et tu en as peut-être déduit que, peut-être que cet arbre n'a pas forcément envie que tu lui fasses des bisous, que tu grimpes dedans. Alors bon, je ne vais pas faire dans la spiritualité à deux balles, mais j'en sais pas, peut-être que tu aurais reçu ou interprété le message que viens pas me faire un bisou parce que sinon tu vas me violer. Attention, je sais que c'est très glissant, là, on aborde le concept du viol sylvestre. Ça devient très scabreux, notre affaire. Après tout, c'est vrai, on voit des gens qui se ruent sur les arbres pour leur faire des câlins, mais en fait, j'ai presque envie de leur dire, mais vous lui avez demandé son avis à l'arbre, vous croyez qu'il a vraiment envie qu'un sapiens vienne s'agglutiner sur lui?
Galinothérapie, sylvothérapie, le questionnement que l'on peut avoir par rapport à ces pratiques qui ont le vent en poupe, c'est quel regard on a sur l'arbre? Est-ce que l'on ne se regarde pas soi-même en allant faire des câlins aux arbres? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette attention à l'autre que soi. Et alors, peut-être que dans certaines façons d'amener la sylvothérapie, certains thérapeute amène à ce regard.
Ouais, t'as fait des guillemets avec les doigts, quoi, t'as fait thérapeute.
Peut-être qu'ils amènent à une vision particulière de l'arbre et à un regard qui serait détaché de soi. Et en même temps, y a beaucoup d'anthropomorphisme qui parfois est assez débridé. Hein. D'ailleurs, dans certains livres qui prêtent aux arbres des choses que nous, on connaît. Mais moi, ce qui me laisse un petit peu perplexe, c'est pourquoi faut-il en arriver là? On n'a pas besoin d'attendre que l'on nous dise que l'arbre est intelligent pour qu'on lui prête une attention particulière. Le jour où on apprendra que les cloportes peuvent utiliser des centaines de signes pour communiquer entre eux, peut-être que là on les regardera d'une autre manière, mais c'est ce qui me gêne un petit peu, c'est l'arbre à son altérité. C'est un être qui est tellement différent de nous. Il n'est pas comme nous. Dans chaque cellule de cet être, il y a des choses qui nous échappent complètement. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est de pouvoir être au contact avec ces espèces d'immensités qui nous fascinent depuis toujours, qui sont aussi très liées à notre histoire personnelle. On est liés aux arbres. Mon collègue Clément parle de ce lien que l'on a avec la rivière, qui est très juste, et il y a aussi ce lien avec les arbres qui est très fort, rien qu'en regardant notre corps. Si on regarde notre main, avec ce pouce qui peut bouger dans tous les sens, qui peut toucher notre index, notre majeur, ce pouce qui peut agripper des branches de toutes les tailles, notre corps a été façonné par les arbres. l'arbre est lié à nous, et nous sommes liés à l'arbre. Il est lié à nous aussi parce qu'on mange ses fruits, et qu'il est bien content que des animaux mangent ses fruits pour pouvoir disséminer les graines. Et là, je fais de l'anthropomorphisme, hein. Je parle d'un arbre qui est bien content. Peut-être qu'on en vient toujours à en faire un peu. J'ai pas envie d'être trop critique non plus par rapport à ça, parce que chacun, chacune, on vient d'un endroit, et puis on hérite aussi de plusieurs siècles de distanciation, de séparation entre notre corps et le reste, entre la nature et nous, et tout ça. Je pense qu'il faut être un peu prudent aussi. Il y a des critiques très acerbes de ces anthropomorphismes qui font sourire, bien sûr. Mais ce qui m'intéresse, c'est une façon sensible de rencontrer l'arbre, mais pas que. Il y a des tas de connaissances aujourd'hui qui nous amènent à les regarder différemment. Et si aujourd'hui, on sait que l'arbre a besoin de tous ces champignons qui sont dans le sol pour pouvoir transporter de l'eau enrichie en nutriments, ça, avec une approche sensible, on ne l'a pas forcément. Et puis, de ces dernières années, il y a un gros travail qui a été fait sur l'architecture des arbres, sur le lien entre les arbres et les champignons, et les microbes, et comment ils interagissent entre eux, et voilà, la relation avec la lumière, avec l'eau, qui est très importante aussi. On ne peut pas dissocier la pluie d'un arbre. Enfin, l'arbre, c'est vraiment le lien entre la terre et le ciel. Il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus, beaucoup de poésie, énormément de... Et puis une symbolique très forte aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des symboliques très différentes selon les arbres. Le peuplier noir, celui dans lequel on est allé là, la symbolique est très, très riche. On passe d'une chose à une autre selon les cultures, les époques. Cet arbre ne représentait pas du tout la même chose. C'était à la fois la vie, à la fois la mort, à la fois les deux. C'était l'arbre de la nouvelle lune. Il y a plein de choses. Le chêne, alors n'en parlons pas. Et puis chaque arbre a son énergie aussi, si on peut appeler ça énergie, quelque chose que l'on ressent qui est un peu différent. Quand on grimpe dans un chêne, il y a quelque chose que je ressens qui est très sécurisant. Bon, les branches déjà sont très solides, très ancrées. Mais c'est un arbre qui se prête plus à raconter des histoires, par exemple. Ou, voilà. Puis il y a des arbres qui nous invitent à être davantage dans le mouvement. Et des arbres comme le peuplier. Alors le peuplier noir, pour moi, c'est mon arbre.
Oui, tu l'aimes beaucoup.
C'est un arbre que j'aime beaucoup, effectivement. Et étonnamment, hein, parce que je ne pensais pas que j'allais grimper la plupart du temps dans un peuplier noir. C'est un arbre qui est plutôt craint pour des branches qui s'élèvent vers le ciel, qui peuvent être un peu fragiles. Bon, ça dépend des peupliers. Celui-ci, en l'occurrence, pas du tout.
Quand je t'ai entendu faire cette remarque une fois sur Bon, est-ce que vous avez demandé à l'arbre son avis s'il veut bien faire de la câlinothérapie avec vous? Bon, je vous le confesse, ça, quand personne me regarde, en fait, ça m'arrive de faire de la câlinothérapie, ne le dites à personne. Mais depuis que tu as dit ça, en fait, je me suis accordé ce temps de prise de contact avec l'arbre. En fait, je me plante devant et je m'imagine, hein, tout ça est très ésotérico, tralala, mais... pas un dialogue, mais disons, est-ce qu'on se sent? Je m'autorise au moins de me poser la question, et puis si symboliquement, je me dis non, en fait, peut-être qu'on se sent pas, c'est comme les gens. Tu sais, des fois on dit « je le sens pas », en fait c'est vrai que des fois on ne sent pas les gens, mais littéralement, quoi. Peut-être que c'est ce qui t'est arrivé avec cet orme aussi, il y a aussi cette notion de respect que tu lui dois, et que tu t'es posé la question, en fait, de bon, est-ce que je te grimpe dedans ou pas? Et puis après réflexion, non, et ce sera plutôt un autre. Prendre quelques instants pour se poser la question. Et puis, en fait, si ça ne marche pas avec celui-là, dans une forêt, il y en a d'autres. On trouve notre affaire un peu plus loin. Que ce soit évidemment pas trop intrusif pour cet être vivant qui ne sert pas qu'à faire des bûches et des planches.
J'aime bien cette idée que l'arbre nous choisit. Il y a un jeu que l'on propose. Ça s'appelle Arbre mon ami, qui est beaucoup utilisé en animation nature. Et ça se fait en binôme. Il y a une personne qui a les yeux bandés et l'autre personne va la guider. Donc il y a une personne à l'aveugle qui va aller rencontrer un arbre. Mais on peut le faire seul aussi. D'avoir les yeux bandés et puis de marcher dans la forêt. Et puis là, il y a un arbre que l'on va...
entrer en contact avec ton visage.
Exactement. Et qui va nous marquer profondément. Et c'est une expérience intéressante à faire, je trouve. D'enlever cette, le primat de la vue qui est omniprésent aujourd'hui. On utilise ce sens peut-être abusivement. Alors qu'il y a des tas d'autres sens, c'est notamment quelque chose de l'instinct aussi. L'instinct, l'imaginaire, ça fait partie des... On pourrait presque parler d'une forme de sensorialité dans notre imaginaire. Moi, c'est ce qui m'a amené à grimper aux arbres, c'est l'imaginaire. J'ai commencé à grimper dans les arbres, j'étais dans ma tête complètement, j'étais tout petit, et il y avait un cerisier, mon cerisier d'enfance, très cher à mon cœur, et je grimpais dans cet arbre, et je m'imaginais mais tellement de choses, j'étais dans un monde mais complètement... Alors je parlais tout seul, mes parents trouvaient ça très bizarre, ils m'entendaient parler dans l'arbre. Et j'étais un personnage, puis un autre, puis un oiseau, et j'étais en haut, en dehors de tout. Et l'arbre aussi nous parle des oiseaux beaucoup. Voilà, moi j'ai cette petite histoire avec un couple de tourterelles qui étaient chez moi, et je les appelais. et les tourterelles se rapprochaient à quelques centimètres de moi. Ce contact avec elles, j'essayais toujours de me rapprocher un peu plus près. Il y avait cette distance raisonnable entre nous, mais j'étais fasciné par les oiseaux. Et d'ailleurs, après, si j'en suis venu à faire ce métier, je le dois beaucoup aux oiseaux.
Tu sais faire la tourterelle là ? Tu ouais. pourrais nous faire la tourterelle ?
Oui, bien sûr.
Turc. Puis après, j'avais toute ma période, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et tout, avec ces entes, ces arbres qui bougent et qui se défendent. Et aujourd'hui, c'est très d'actualité, hein. Avec le Parlement de Loire et puis voilà, comment donner une autre parole à des autres qu'humains. Et je repensais un petit peu voilà, à tous ces récits et ces lectures fantastiques, héroïques, fantasy, où les arbres parlent et peuvent se déplacer et puis aussi peuvent se défendre, quoi. Donc j'aimais cette idée d'être dans un être qui a la parole et bien sûr qui ne l'avait pas, mais je le faisais parler à sa place, quoi. C'était cet imaginaire que j'avais quand j'étais petit et qui m'a énormément nourri au final.
T'as juste mentionné un truc dont on reparlera dans d'autres émissions, hein, qui est le Parlement de Loire, qui est ce questionnement, faut-il doter d'une entité juridique des milieux naturels pour qu'ils soient protégés, en justice, bien sûr représentés dans les tribunaux de Sapiens par des Sapiens, mais l'idée de ce Parlement de Loire, comme ça a été fait sur, je crois, des cours d'eau en Nouvelle-Zélande, doter les milieux naturels d'entités juridiques pour qu'on puisse les défendre en justice. Bon, vaste débat qu'on abordera dans d'autres programmes. Dis-moi Sam, est-ce que tu as un arbre préféré, un arbre que tu aimes particulièrement sur cette île ?
Sur cette île, pas vraiment. Là, spontanément, dans ma tête, j'ai eu la vision d'un arbre qui n'est pas sur cette île, qui est situé pas très loin d'ici, à Reugny, un petit village à une vingtaine de kilomètres de Tours, où j'ai passé mes vacances dans cet arbre. Alors, j'aime pas le mot vacances. Disons que j'ai voyagé dans cet arbre. J'y suis resté pendant 3 jours. Un gros chêne vert, très très vieux, qui est sur le bord d'un chemin. Au début, je voulais passer du temps dans un arbre, dans une forêt, et puis finalement, il y a celui-ci qui est venu à moi. Enfin, une amie, Caroline, m'a envoyé une photo en disant « Oh, regarde, un chêne vert, il est magnifique, il est juste à côté de chez nous. » Et j'ai vu ça, j'ai fait « Waouh, génial !» Donc j'y suis allé. Bon, un chêne vert qui n'est pas très grand, mais très très gros, avec un port qui s'étale de façon importante, qui est à l'interface entre le champ et la forêt. Et ça, je trouvais ça intéressant aussi d'être dans cet espace d'entre-deux, dans ce milieu qui nous parle des haies bocagères, et plus que de la forêt. Et donc ce chêne est situé dans cet endroit très bocager. Il se démarque des autres arbres par son feuillage extrêmement sombre. Et donc cet arbre creux, oui, il est vivant, mais tout creux. La première fois que j'ai grimpé dans ses branches, j'ai été stupéfait de voir qu'il était vraiment totalement creux. Alors moi, j'en ai profité pour mettre des choses au frais, de l'eau et puis de la nourriture, parce que j'y suis resté 3 jours. Et voilà, j'ai rencontré cet arbre. Alors je ne lui ai pas parlé, je ne lui ai pas non plus fait de câlin, mais j'ai trouvé ça très beau, toute cette vie. Il y avait un couple de mésanges bleus. Au début, elles étaient un peu méfiantes. Je les voyais se promener sur les branches, m'observer de tous les côtés. Et puis, avec le temps, au bout de 2-3 jours, elles se rapprochaient, elles étaient vraiment tout près de moi. Et j'ai même pu assister un beau matin à un accouplement de mésanges bleus à quelques centimètres de mon visage. J'ai trouvé ça magnifique, un instant très court. Oui, quand la mésange bleue se reproduit, ça dure 1 à 2 secondes. C'est absolument magnifique, ces mésanges qui finalement ont accepté ma présence. Et je pense que c'est un peu la clé pour approcher le vivant et ce monde dit sauvage. C'est de prendre le temps, de rester assis ou allongé à un endroit. Et finalement, c'est eux qui viennent à nous, ils sentent notre présence et puis ils sentent que nous ne sommes pas un danger. Mais ce n'est pas en une demi-heure, une heure ou même une nuit que cette chose se produit, ça prend un petit peu plus de temps. Il y a eu un film sur les loups là, de Jean-Michel Bertrand où il nous parle de cette façon qu'il a d'approcher le loup. Et il va se mettre à uriner un petit peu partout et le loup va sentir sa présence. Et puis les jours, les semaines passent et finalement il fait partie intégrante de ce milieu et il peut observer ces loups. Il n'y a pas de loup ici, enfin si, il a été observé, mais ce qui m'intéressait c'était cette petite faune ordinaire qu'il y a dans ce chêne vert. Les blaireaux, les mésanges, les sangliers, les chevreuils. J'ai trouvé ça assez organique comme vie, parce que j'étais dans ce hamac, et puis tu l'as vu tout à l'heure, il y a plein de fientes là dans mon hamac. Là. Ça vient du voyage dans le chêne vert. Le matin, quand je me réveillais, j'étais plein de débris, de feuilles mortes, j'avais des fientes partout, d'oiseaux. Et j'avais l'impression de faire corps avec l'arbre, de par toute cette matière morte, inerte, qui se dépose sur moi. Et ça, j'ai trouvé ça très beau, d'être au milieu de ces débris. Il y a un mimétisme. Et la discrétion, c'est quelque chose qui se perd un peu. Et je trouve que c'est une vertu extraordinaire. Essayer d'être discret. Il y a un livre qui s'appelle La Bilbaude, de Henri Vincenot. Et la Bilbaude, c'est on pourrait appeler ça une technique, mais c'est autre chose qu'une technique. Plutôt une façon de marcher, une façon de déambuler en forêt et essayer d'être complètement invisible. Et on se rend compte que lorsqu'on essaye d'être invisible, et ben on voit tout l'invisible. L'invisible, c'est la totalité de ce qu'on a sous les yeux, qui vient par une attention un peu flottante, quoi. On ne vise pas, on ne cherche pas, on ne chasse pas, on ne pêche pas, on est juste là. Alors le développement personnel, ils en ont fait commerce, hein, de cet instant présent, mais je pense que c'est autre chose que ça, c'est simplement une attention. Il s'agit d'avoir un regard affûté. Je pense que la poésie, c'est ça aussi, c'est d'essayer d'affûter un peu son regard, ses sens. Et il y a tout qui se révèle, qui se dévoile. Et c'est pas magique, hein. Ça demande un peu de concentration. On l'obtient peut-être par de la méditation. Mais au final, pas besoin de faire de la méditation. Il suffit d'aller en forêt et de marcher silencieusement. Et la bilbaude, c'est ça, en fait. C'est de faire le moins de bruit possible. Et dans ce chêne vert, j'ai essayé, hein, de m'adonner à cette tâche assez difficile, surtout dans notre monde, qui est d'être discret et d'essayer de se fondre un peu dans le paysage. Donc voilà, j'ai fait un long chemin pour répondre à ta question, mais je pense à ce chêne vert. Après, on peut aller voir d'autres arbres qui me touchent particulièrement, si tu veux.
Oh là 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 là! Voilà un gigantesque arbre mort. Lui, il sort du Seigneur des Anneaux, hein, direct. Hein. La vache, il est imposant. Hein. Un tronc monumental, il faudrait au moins 5 ou 6 personnes se donnant la main pour faire le tour du tronc. Il est mort, hein, lui.
Alors cet arbre, c'est un peuplier noir. Il doit faire bien 1m60, 1m70 de diamètre. Très très gros et vieil arbre. La plupart de ses branches sont tombées. Il reste quand même une grande branche qui est mangée par les... Il y a des trous de pique, pie noir, pique et pêche. Et donc au centre de cet arbre, il y a encore un tout petit peu de verdure. Et probablement qu'il s'agit d'un rejet de ce peuplier qui prend racine. Comme beaucoup d'arbres, en fait, lorsqu'ils sont sénescents, lorsqu'ils sont dans leur dernière tranche de vie, lorsqu'ils meurent, ils ont des pulsions de vie. Donc ils font une grosse quantité, pour certains arbres, hein, pas tous, de rejets qui sont un petit peu comme des clones. L'arbre continue de vivre, mais différemment. Puis, lorsque l'arbre va se coucher, une partie de ses rejets vont pouvoir prendre racine, et un autre arbre, qui est le même arbre au final, va se développer et s'épanouir. Donc, un arbre n'a pas vraiment de programme de sénescence. Ce qui va le tuer, bon, y a plein de choses, des différents facteurs, mais un arbre qui est dans de bonnes conditions, dans un environnement où il y a plutôt sain, il peut vivre vraiment très longtemps. Il y a des ifs qui vivent des millénaires. Bon, le peuplier, un peu moins, parce qu'il est sur des milieux où il peut avoir potentiellement plus de champignons. Là, sur une île de Loire, ça bouge beaucoup. Il peut être attaqué par différents prédateurs. Il peut y avoir des entrées de parasites plus que dans d'autres milieux. Mais là, c'est très beau, effectivement. Il y a des abeilles. Là, on voit, il y en a certaines qui volent près du tronc. Donc, on peut imaginer aussi des colonies d'abeilles à l'intérieur de l'arbre. Ah si, ben là, regarde, il y en a une. Là, il y a des abeilles, là. On les voit.
Bon, je t'ai demandé... Qu'est-ce qu'un arbre ? Tu disais finalement qu'il y a 1000 définitions possibles. Bah, la même chose pour la forêt, en fait. Et dans certains cas, finalement, le concept de forêt est aussi flou que qu'est-ce qu'un arbre ? Parce qu'une forêt pourrait finalement être le seul et même individu.
Bah, on s'est rendu compte, en fait, que le plus vieil arbre au monde est en réalité une forêt. Prenons les peupliers sur le bord de Loire, là, les peupliers que l'on voit. Ce sont des arbres, donc il y a la partie aérienne visible que l'on peut voir, le tronc, les branches, les feuilles, etc. La partie qui n'est pas visible, qui est souterraine, les racines. Et les peupliers, on dit qu'ils drageonnent beaucoup, donc ils font des rejets au niveau des racines. Quand on arrive sur une île de Loire avec plein de jeunes peupliers, il est possible qu'en réalité, nous sommes en présence d'un seul et même individu, avec plusieurs parties aériennes. Et donc ça, je trouve ça assez amusant, parce que ça vient un petit peu chatouiller la définition que l'on a de la forêt et de l'arbre. Ces deux définitions, ça explose en mille morceaux, puisqu'en réalité, nous sommes dans un arbre avec plein de parties visibles, plein de parties aériennes. C'est aussi une forêt, bien sûr, mais enfin, voilà, ça décloisonne un peu les choses, et ça, je trouve ça assez amusant de considérer un peu différemment.
Alors ça, puisqu'on était dans le monde de l'onirique, du poétique, parmi toutes les casquettes que tu portes, donc batelier, bourdeur, grimpeur d'arbres, animateur nature, etc., tu écris aussi de la poésie.
Lorsque j'ai un petit peu de temps, de disponibilité mentale, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ouais, depuis toujours.
T'as une petite plaquette à la main, ça s'intitule Branchu.
J'étais un peu pudique, je voulais pas mettre mon nom de famille, mais finalement je pense que je le mettrai pour les prochaines.
Donc là sur la couverture c'est marqué, pour le moment c'est marqué Samuel Grive.
Grive, ouais.
C'est très joli.
Oui, j'aime beaucoup la grive. La grive musicienne, la grive litorne, grive draine, tous ces oiseaux. Les grives, c'est des oiseaux chanteurs. Ce sont des imitatrices, mais elles ont leur petite touche personnelle, leur petite note à elles. Je cherchais un animal, et puis j'aime beaucoup le mot grive aussi. C'était Samuel Grive, mais...
T'aimes beaucoup les mots, hein. Ça fait plusieurs fois que tu parles d'étymologie, de racines...
Ah, j'aime beaucoup, oui. Ouais, j'aime bien les mots.
C'est comme les arbres, ils ont des racines.
Bah, un mot, ça change beaucoup de choses selon la façon dont on l'utilise, et notre rapport aux autres, notre rapport aux arbres, il est très conditionné par l'usage que l'on a des mots. Et je pense que tout l'enjeu aussi de ce gros chantier que l'on a aujourd'hui à faire avec ce monde qui évolue très rapidement et nous amène à repenser ces mots qui portent beaucoup de domination, très lourde histoire patriarcale. Voilà. Je pense qu'il y a tout intérêt à essayer de changer les mots, en tout cas d'utiliser des mots qui font que la relation que l'on peut avoir avec l'interlocuteur, l'interlocutrice ou les arbres est un peu différente et peut-être plus harmonieuse. Quoi.
Tu nous as choisi un poème?
Bon, je l'ai appelé L'Arbre, pour être très original. Poème que j'ai écrit pendant le premier confinement, et je repensais beaucoup justement à ce cerisier d'enfance. L'arbre s'élève vers le bleu du ciel, son berceau, et de la tendre enfance, mon berceau. On s'est rencontrés, toi et la musique volante, ma peau, tes branches courbes et fourbues, une offrande. Moulé au pain des rêves et de la solitude profonde, mes jambes sont légères et le matin de craie. Plumes blanches et collier noir, sève brûlante sous mes doigts. L'œil se promène et vacille, fiévreux.
Et voilà les amis, c'est sur ces mots que s'achève notre balade sur une île de Loire. Grand merci à Sam et à l'école de Loire, la rabouilleuse de Rochecorbon. On se retrouve très bientôt sur cette même antenne pour des émissions hélas beaucoup moins bucoliques, où il sera beaucoup question de l'eau, et notamment de la pénurie et de la pollution de l'eau douce et potable. On a déjà évoqué ce danger mortel au cours de reportages autour du scandale criminel des méga-bassines, des émissions à réécouter sur notre site, polemix-et-la-voix-off.com. Mais ces absurdes bassins de stockage ne sont pas les seules horreurs qui nous menacent. Nous sommes déjà en des temps dangereux où l'eau, et notamment l'eau potable, va se faire de plus en plus rare. En attendant, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.